MCITV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. On est tous très heureux de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine et ensemble on va débloquer notre foi. Vous allez bien, messieurs?
Très bien, Yveline.
Ça va, Yveline? Ravie de t'avoir encore, Patrice, avec nous. Dernière journée, on t'aurait bien gardé encore un petit peu.
Très heureux d'être là aussi, avec vous deux.
Ça fait plaisir. Et encore aujourd'hui, on a un peu des couleurs qui
font.
La première venue, on était en noir.
C'est vrai.
Cette semaine, on était un peu noir. Je sais pas, il y a quelque chose qui se fait.
C'est naturel.
Niveau vestimentaire. Connexion,
la connexion spirituelle entre nous.
Ah non, mais il se passe quelque chose, hein.
C'est fort. Notre foi est débloquée.
Oh, absolument.
Nous sommes
absolument pas lien, mais d'accord.
Ouais.
Aujourd'hui, on va débloquer notre foi. Il y a des choses qui peuvent nous bloquer, qui peuvent nous limiter dans notre foi. Et on va passer à un autre niveau. Et on a quelques exemples de la Bible aussi à partager. Mais peut-être que si vous avez des anecdotes aussi à partager, ça peut être aussi intéressant de vous encourager, vous exhorter aussi à voir peut-être quelles sont vos limites, qu'est-ce qui vous bloque. Et puis, à tout faire sauter. Si c'est des gens, faut pas les faire sauter. Mais bon, on verra après. On en parlera gentiment.
Ben, c'est un beau thème, je le découvre maintenant, Yveline. Ah. Ça va être une belle émission, je crois.
C'est fatigant quand tu fais ça. Je vous vends, Frank. Qui le veut, vous qui l'aimez tant, je vous le vends. C'est pas cher. $5.
Il manquerait juste Nadine et elle serait énervée, là.
C'est sûr. Ouais. C'est sûr, Nadine nous manque. Allez. On va passer aux choses sérieuses.
Allons-y.
Faut switcher, tu vois, faut suivre avec Frank. Tu passes de...
Avec plaisir. Moi, j'aime beaucoup.
Du rire à l'esprit. Hallelujah.
Exactement. Allez, on va commencer avec notre pensée du jour.
Alors aujourd'hui, j'aimerais vous encourager justement, la pensée c'est de débloquer sa foi et souvent, ce qui nous bloque c'est le regard des autres sur nous, c'est parfois le manque de budget, c'est parfois toutes sortes de choses qui sont là, qui mettent une pression sur nous et on se dit mais est-ce que je vais être capable d'abattre mon géant, est-ce que je vais être capable de faire finalement ce que Dieu veut pour moi? Et j'aimerais vraiment t'encourager à débloquer ta foi à travers l'histoire de David. David c'est juste un personnage qu'on aime énormément forcément, mais c'est un personnage qui vraiment nous étire au niveau de la foi. Par exemple, David, lorsqu'il s'est retrouvé à aller combattre contre Goliath, faut comprendre ceci, c'est que personne ne croyait en David. Je réfléchissais là-dessus, là, dernièrement, son propre papa ne croyait pas en lui. La Bible nous dit quand le prophète Samuel est venu chez le papa de David en disant voilà, je dois donner une onction et amène tes fils, tous les fils ont été amenés, mais pas David. En fait, le papa de David ne croyait pas en David. Mais c'est pas que le papa. En fait, quand tu réfléchis, le papa ne croyait pas en lui, mais même son frère ne croyait pas en lui. Eliab, la Bible nous dit que quand David s'est renseigné pour aller combattre David, combattre Goliath, la Bible nous dit que Eliab a dit de David, t'es qu'un petit prétentieux, pour qui tu te prends, etc. Bref, il l'a énormément rabaissé. Même son propre leader ne croyait pas en David, parce que lorsqu'il s'est retrouvé devant le roi Saül, il lui a dit mais tu n'es qu'un gamin, t'es qu'un enfant, et lui c'est un homme de guerre depuis sa plus tendre enfance, depuis sa jeunesse, mais ça va être un carnage, ça va être une boucherie cette histoire. Quand bien même il disait ça, lui-même n'y a pas été quand même, il a laissé David y aller à sa place, mais il croyait pas en David. Donc c'est fou quand tu y réfléchis, ton papa ne croit pas en toi, ça te bloque. C'est des blocages dans nos vies. Il y en a, vous le savez, quand on a grandi dans un foyer, notre famille, ton papa, ton frère croit pas en toi, t'arrives dans une entreprise, ton leader croit pas en toi, c'est quand même pas mal de freins. Ça pour la confiance en soi et pour l'estime de soi, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Même son propre défi ne croit pas en lui. La Bible nous dit que quand il a été voir pour se battre contre Goliath, Goliath va dire ceci, suis-je un chien pour qu'on m'envoie un gars comme toi? Donc c'est-à-dire que vraiment personne ne croyait en lui, et je vais même aller encore plus loin, même l'homme de Dieu ne croyait pas en lui. Parce que quand Samuel a été dans la maison de David, la Bible nous dit il a voulu oindre Eliab, et il a fallu une intervention de Dieu, et Dieu va dire non, les hommes regardent à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. Et là il va désigner David, c'est lui qui doit recevoir l'onction. Donc ça veut dire que personne ne croit en David, si ce n'est Dieu bien sûr, mais en fait des êtres humains, personne ne croyait en lui. ni son père, ni son frère, ni son leader, ni son défi, ni le pasteur, ni l'homme de Dieu. En fait, le seul qui croyait en David, c'était David lui-même. Parce qu'il avait développé, dans son intimité avec Dieu, il avait développé vraiment cette foi qui a grandi en lui. Et lui savait ce que Dieu était capable de faire dans sa vie. Mmh. Il savait ce que Dieu était capable de faire, d'être cet instrument puissant et utile pour être utilisé par Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire, même si personne ne croit en toi, que cela ne te bloque pas dans ta foi, mais crois qu'avec Dieu, tu peux accomplir des exploits.
Amen. C'est tellement bon de voir l'histoire de David, en fait. Mmh. Parce que David nous inspire énormément. On peut beaucoup s'identifier avec David parce que il paye pas de mine quand on le voit comme ça. Mais en fait, il a un bagage. Il a quelque chose, mais lui seul le sait. Parce qu'il était tout seul quand il s'occupait des brebis et qu'il s'occupait du lion et de l'ours. Donc en fait, il a fait ses preuves, mais tout seul. Il s'est formé tout seul. Et peut-être que ça rejoint quelqu'un, hein. On a vu des défis, on a traversé des choses, et puis le Seigneur nous a exaucés, et petit à petit, on a bâti notre foi. On est devenu plus solide, mais c'est dans l'intimité que ça s'est fait. Et à un moment donné, le Seigneur décide de mettre David à la lumière pour que tout le monde voit ce qu'il avait commencé à tisser en lui dans le secret. Et oui, c'est vrai, personne ne croyait en lui, mais en fait, il y a Dieu aussi, comme tu dis, qui croyait en
lui. C'est ça.
Il croyait lui-même en lui, David, parce que il avait eu des expériences, mais il savait surtout qui était avec lui. Et c'est pour ça qu'il arrive à se tenir devant Goliath avec cette assurance et cette fermeté, en fait, en disant, moi, je me tiens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Enfin, c'est puissant, cette déclaration. Mais c'est ça, il sait qui est avec lui. Mmh. Il sait ce que Dieu a déjà fait au travers de lui. Ouais. Et il y a des moments où, si on veut débloquer notre foi, on doit aussi aller se souvenir de ce qu'on a vécu dans le passé. Les victoires qu'on a eues dans le passé. Les fois où Dieu nous a exaucés, oui, peut-être pas aux yeux de tous, mais où Dieu est intervenu, où Dieu a fait des choses dans nos vies et il a débloqué des situations. Et petit à petit, comme ça, notre foi s'est bâtie, petit à petit. Et on se retrouve dans des défis toujours plus grands. Mais on regarde en arrière, on se dit, le Seigneur l'avait fait la dernière fois, il va le faire encore parce qu'il est encore avec moi. Et on fixe nos yeux sur lui. Et c'est comme ça, en fait, qu'on débloque, entre guillemets, des niveaux de foi, si on peut parler de niveaux. Je pense que la dernière fois que tu étais venu, on avait parlé de Mario Bros ensemble, si ma mémoire est bonne. C'est des niveaux de foi, en fait, qu'on débloque au fur et à mesure parce que on passe à d'autres étapes, en fait.
Ouais. Et dans cette histoire, j'aime trop quand tu lis l'histoire, il regarde et il dit, qui est cet incirconcis? Et en fait, la circoncision, c'est ce signe de l'alliance que Dieu avait mis en place avec son peuple, avec le peuple d'Israël qui avait instauré. Et quand tu regardes à même Abraham et Sarah, Dieu avait fait une alliance avec Abraham, lui disant que voilà, de toi va, etc., venir une descendance qui va être nombreuse comme les étoiles et tout ça. Je crois personnellement que David était très conscient de l'alliance que Dieu avait fait avec son peuple. Et que dans cette alliance, Dieu avait dit qu'il n'allait pas avoir de peuple, voilà, qu'il allait tenir. Voilà, je vais être avec vous, je vais y aller, etc. Et aujourd'hui, nous, sous la nouvelle alliance, par le sang de Jésus, dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui est basé sur de bien meilleures promesses, je fais exprès d'amener ça ici là, pour vous tous qui suivez. David était conscient de l'alliance dans laquelle Dieu était avec le peuple d'Israël. Nous, on est dans une alliance encore meilleure aujourd'hui. On se dit, à combien plus forte raison on peut avoir confiance en Dieu, dans son intervention, dans l'accomplissement des promesses qu'il nous a fait, nous, ses enfants, dans cette alliance qui est extraordinairement meilleure de ce que celle de l'Ancien Testament et des différentes alliances qu'il a pu y avoir. L'alliance était une des clés fortes pour David, je le crois, parce qu'il se disait, oui, j'ai vu Dieu intervenir dans ma vie, j'ai vu comment Dieu a été, maintenant, le peuple a peur, il voit Goliath qui est là, mais non. On a un Dieu dans lequel on est en alliance avec lui. Ouais. Et il va être là à nos côtés. Et il va nous secourir. Et aujourd'hui, et même, je parle d'Abraham et de Sarah, c'est quand tu lis dans le livre aux Hébreux, ça dit que Abraham croyait même que, voilà, Isaac allait ressusciter d'entre les morts, même s'il le fallait, parce que Dieu avait promis que de ce fils, il allait avoir une descendance. C'est-à-dire, même si je dois sacrifier mon fils, Dieu a dit que de lui va sortir une descendance, il va devoir le ressusciter d'entre les morts. Waouh! Tu dis, c'est énorme! Il était conscient de cette alliance et de la promesse que Dieu avait faite. Et aujourd'hui, pour nous, on peut être conscient de l'alliance dans laquelle on est. Et de se dire, tu as promis ça. Ma foi, elle doit être stimulée, elle doit être boostée. Je dois me rappeler de là où je me trouve aujourd'hui actuellement. Même si c'est compliqué, Dieu est avec moi et il va pas m'abandonner. Et ça, c'est quelque chose qui est... On n'a pas tendance à réfléchir aux alliances comme ça. Mais quand on est dans une alliance avec Dieu, c'est quelque chose de très fort.
Amen. Amen.
Moi, j'aime tellement ce que tu viens de partager. parce que je pense vraiment que David avait conscience de ça. Il avait conscience de qui il était, de son appel. Et c'est ce qui fait qu'il était fort au moment où tout le monde se cachait derrière des rochers. Et il y a une chose que vraiment je crois, que j'enseigne en leadership, c'est que souvent nous pensons que l'épreuve ou la crise, ben c'est là où on apprend. Et je pense qu'on apprend après, on peut apprendre après, parce que voilà, on va aujourd'hui malheur réfléchir, puis on va tirer des leçons de ce qu'on a vécu. Mais la crise, en fait, pendant la crise, on n'apprend rien. En fait, la crise braque un projecteur sur qui nous sommes. Mmh. Par exemple, David n'a pas appris à combattre Goliath le jour de la crise.
Non, ouais.
Tu l'as dit tout à l'heure, il combattait le lion et l'ours. Et en fait, le moment de la tempête n'a fait que révéler qui était David.
Ouais.
Et en fait, il a été révélé, il avait cette conscience de qui était le peuple de Dieu, il avait conscience qu'avec Dieu, il peut accomplir des exploits, il avait conscience qu'avec Dieu, ben, il peut combattre des ours et des lions, et que Goliath, finalement, ce n'est qu'un nain face à Dieu. Mm-hmm. Et il avait conscience de ces choses-là. C'est un peu comme la tempête qui s'abat sur la maison qui a été bâtie sur le roc, et qui a été bâtie, l'autre qui a été bâtie sur le sable. Il y en a une qui part. Là, la tempête, en fait, t'apprends rien. La tempête ne fait que révéler ceux qui ont les bonnes fondations.
Tout à fait.
Et la crise, ouais. et les combats et les Goliaths qui sont devant nous ne nous apprennent rien, si ce n'est de révéler qui nous sommes au moment où on le vit. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'après, derrière, on ne va pas réfléchir. On va dire, OK, j'ai fait ça, c'était pas bon. La prochaine fois qu'il y a un Goliath qui se dresse devant moi, il va falloir que là, je développe des choses.
Ouais.
Mais en tout cas, c'est ce qui nous permet de remporter des combats, de débloquer des choses dans nos vies et d'aller de combattre. Si Goliath, c'est le... Pour reprendre l'analogie de du jeu vidéo, le Goliath, il est à la fin, là, c'est un Golgoth qui est là. On le fracasse, on passe.
Et en plus de ce que tu viens de dire, imagine la scène. Parce qu'en effet, la crise, la difficulté va révéler où est-ce que tu en es dans ta, je veux faire attention, hein, je veux pas. Pas notre maturité, mais dans le sens, en effet, ça va révéler quand la crise va venir, on est déstabilisé. Mais qu'est-ce qui va remonter en toi par la suite?
C'est ça.
Qu'est-ce qui va ressortir de... À un moment donné, t'es ébranlé, tu t'es pris une claque en pleine face, et là, wow, ok, je reprends mon... Non, attends un peu, je sais qui je suis. Je suis... Et tu penses à David et tout le peuple d'Israël, ils étaient tous apeurés. Personne n'osait y aller, les meilleurs soldats, personne. Il y avait que David qui était dans cette réflexion, hey! On est le peuple de Dieu, choisi de Dieu. T'imagines un petit, le seul dans tout. C'est quand même, c'est déstabilisant dans le sens, tu te dis, waouh, il était tellement conscient de ce qu'il avait vécu et de qui il était vis-à-vis de Dieu, son peuple choisi.
Et de qui était avec lui, du coup?
Et là, tu vois, t'imagines les aînés, les gens qui étaient là, les pères de la nation, ils devaient voir le jeune David un peu fou, qui se dit, waouh, c'est qui ce... Des fois dans la foi, c'est comme ça, t'as le nouveau qui arrive au Seigneur et qui est, nous allons prier pour tous les malades, nous allons... Et tu vois, il y a un peu ce côté-là foufou qui est là. Mais David, en tout cas, à cause de sa compréhension de qui il était et que c'était bien assis en lui, ça le fait toute la différence.
Oui.
Et pour les gens aujourd'hui, je prie vraiment qu'il puisse y avoir ce switch parce que quand que la crise, elle est là, et quand que tu te retrouves... Il y a un boxeur, un champion du monde qui a dit... Tout le monde a un beau plan, tout le monde a une stratégie jusqu'à temps que tu te prennes un coup de poing dans la figure. Là, ton plan, soudainement,
Mike Tyson.
Tout le monde a un plan jusqu'à temps que tu te prennes un coup de poing dans la face. Et là, ben, c'est la réalité. Parfois, spirituellement, tout va bien, on a la vie jusqu'à la retraite de planifier. Là, soudainement, t'as une claque qui arrive. Wow. Et là, je prie que ça puisse créer un shift chez certaines personnes de se dire, waouh, je suis un enfant de Dieu. Et là, je me rends compte que j'étais tombé dans une vie chrétienne monotone où j'étais jamais de défi. J'allais à l'église, alléluia, merci Seigneur, on est reconnaissant pour salut. Mais là, rappelle-toi de qui tu es dans cette crise. Rappelle-toi de ce que Dieu t'a dit. Rappelle-toi des promesses de Dieu. Réfléchis à qui tu es, l'esprit de Dieu en toi. Waouh, c'est extraordinaire. Et là, des fois, ça prend un coup comme ça pour nous faire, waouh, c'est vrai, je dois me rappeler de qui je suis. Même si les autres s'en rappellent plus, moi, je sais qui je suis et je fonce.
Oui. C'est sa parole pour nous.
Ouais.
Amen. Et je pense que, ben, on dit beaucoup, hein, que la foi est un muscle, quelque chose qui se développe dans le temps. Mais je crois que le meilleur moyen de développer un muscle, c'est de le déchirer. Je suis pas experte, je vais jamais à la salle de sport, mais j'ai cru comprendre qu'il faut déchirer pour que ça se développe. Et je crois que les fameuses crises dont on parle et les Goliaths sur notre chemin, ben, sont justement là pour déchirer le muscle, pour nous faire passer justement à un autre niveau. Et je me souviens, quand je suis venue au Seigneur, certains vous connaissez mon témoignage, mais j'ai dû renoncer à une personne vraiment pour suivre le Seigneur. Et donc, je me retrouve célibataire avec zéro possibilité autour de moi. Vraiment, j'ai aucune option. Je suis dans une toute petite église et il n'y a personne de mon âge de célibataire. J'ai aucune option. Je connais pas d'autres chrétiens. J'ai plus d'amis. J'ai plus rien. Donc, voilà. Ça m'a l'air très, très compliqué. Et je commence à me poser beaucoup de questions. Je commence à m'inquiéter. Mais est-ce que je vais trouver quelqu'un? J'aimerais quand même me marier à un moment donné. J'avais 19, 20 ans. On est en train de penser à tout ça et j'ai pas de solution. Et je me souviens de ce soir où je vis quelque chose de très très fort avec le Saint-Esprit. Je rentrerai pas dans tous les détails parce que j'ai pas le temps. Mais en gros, je vis une expérience très forte où je me mets à intercéder pour mon futur mari, que je ne sais absolument pas qui c'est, qui s'avère être Michael, hein, je précise au cas où. Mais je ne le sais pas à ce moment-là. Et j'intercède pour lui très très fortement et je sens un fardeau sur lui, pour lui. Et en fait, une fois que j'ai fini de prier, il se passe quelque chose de très spécial, c'est que par la foi, je sais que quelque part sur la terre, j'ai un mari. J'ai aucune idée où, j'ai aucune idée qui, mais je sais qu'il existe et j'ai déjà des sentiments même pour cette personne sans savoir qui c'est. Et je commence à prier tous les jours pour mon futur mari. Et pourquoi je raconte ça? C'est que, en fait, j'ai découvert un nouveau niveau de foi. J'étais nouvelle au Seigneur, je connaissais pas grand-chose, mais j'ai appris en fait à faire confiance au Seigneur, que même si mes yeux voient quelque chose, une situation qui a l'air impossible, pas de possible mari autour de moi, mes yeux voient quelque chose, Dieu lui voit autre chose. Ouais. Et en fait, pour faire sauter notre foi, des fois on a besoin que Dieu télécharge aussi sa pensée en nous. Télécharge cette vision des choses à venir comme si elles étaient, comme dit la Bible. On les voit pas encore, on les vit pas encore, mais il y a une foi qui est téléchargée en nous et on s'appuie sur ça et on devient un peu comme cette maison dans la tempête, que oui, peu importe, je rencontre toujours personne, les mois passent, il y a personne autour de moi, je suis toujours célibataire, ça change rien, je suis ferme parce que j'ai eu cette foi qui a été plantée en moi. Et en fait, ça se développe au fur et à mesure. Et j'aurais pu juste croire, ok, Dieu a un mari pour moi, et puis laisser passer ça. Non, je vais entretenir cette foi-là. Je vais prier pour lui. Je vais nourrir même ces sentiments que je commence à avoir, des sentiments amoureux pour quelqu'un que je connais pas. Mais je commence à développer ça. Cette personne existe, mon mari existe quelque part. Et donc cette foi devient ferme, devient solide jusqu'au jour où la connexion avec Michael se fait. Et là, on réalise que cette période où j'ai intercédé pour lui était une crise dans sa vie et que Dieu m'avait utilisé pour intercéder dans sa vie. Mais je le sais pas encore quand je le vis. Mais je crois. Et on va regarder notre verset du jour. Dans Hébreux 11 au verset 6, « Or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Et je crois qu'il récompense ceux qui le cherchent, des fois on l'oublie, on retient juste le premier verset. Mais si on cherche Dieu réellement, on vit une situation, on a l'impression qu'on a ce blocage de foi, on doit savoir, avoir cette assurance qu'il nous récompensera, qu'il récompense celui qui le cherche. David avait cette assurance, et on peut même parler de Pierre, qui est un autre modèle aussi de foi, mais différent, dans des circonstances différentes, où il a su que sur la parole de Jésus, il allait pouvoir jeter son filet et puis vivre cette pêche miraculeuse.
Complètement. En plus, Pierre, quand il reçoit cette parole, la Bible nous dit qu'il est en train de laver ses filets. Mm-hmm. Laver ses filets, ça veut dire j'abandonne, c'est terminé. En fait, il est en train d'abandonner, il a pêché toute la nuit, ça n'a pas fonctionné. Donc c'est terminé, je rentre à la maison. Et là, il lave les filets. Ils se connaissent pas encore avec Jésus. Jésus est un peu plus loin, il est en train d'enseigner sur la plage. Et cette scène, elle est assez parlante. Jésus est en train d'enseigner et il voit au loin quelqu'un qui lave ses filets, qui est sur le bord d'abandonner. Et la Bible nous dit qu'il va aller jusqu'à là et va monter. J'imagine la tête de Pierre, Jésus qui monte sur sa barque. C'est qui ce monsieur?
Voilà.
Et qu'est-ce qu'il fait là, ce monsieur? Tu vois? Et peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de nous écouter aujourd'hui. On parle de foi, d'activer la foi, de crises qu'on peut passer, etc. Mais qui sont peut-être en train de laver leur filet. Ils sont en train de laver leur filet en ce moment. Ils se disent c'est terminé.
Ils ont abandonné.
Je divorce, c'est fini. Je quitte la maison. J'abandonne Dieu. Je lave mes filets, c'est fini, j'y crois plus. Et ce passage est beau parce que, alors qu'il est en train de laver ses filets, d'abandonner, Jésus vient s'asseoir dans son bateau.
Ouais.
Et c'est beau quand Jésus vient s'asseoir dans notre bateau.
Ouais.
C'est là que les choses changent, c'est là que les choses bougent. Et il vient dans son bateau. Et je crois que Dieu est capable de faire des choses étonnantes dans nos vies quand on est sur le point d'abandonner. Ouais. Ça me fait penser, j'avais pas prévu parler de ça, mais je t'écoutais, et puis par rapport à ça, y a-t-il quelque chose? C'est Sarah qui dit ça, toujours dans un contexte de foi. Ah, c'est Dieu qui va dire ça, mais y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Sarah, il croit plus au bébé. C'est terminé. C'est comme elle entend que l'année prochaine elle va avoir un bébé, et elle éclate de rire. Elle rit.
Elle avait rangé le filet,
c'est terminé. Et là, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Et j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Parce que je crois que Dieu est capable de faire des choses dans ta vie, combien même actuellement tu laves les filets sur les promesses de Dieu, sur ton couple, sur ton ministère, sur toutes sortes de choses. Y a rien d'étonnant. Et on sait que l'année d'après, c'est ça qui est fort. Elle a eu un enfant qu'elle a appelé Isaac. Et Isaac, ça veut dire « il a ri ». Ou elle a ri. Hein, c'est pas Hillary Clinton.
Non.
Mais c'est ça. Et je me dis, c'est fou parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'eux-mêmes devaient douter, qui étaient bloqués dans leur foi, ils devaient regarder cet enfant. Et le nom de cet enfant était un témoignage que même quand tu n'y crois plus, même quand tu es bloqué dans ta foi, en fait, ben, ris. Parce que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires.
Ça me rappelle de l'histoire de la campagne de don des 5000 sommaires. On parle pas souvent des histoires de MCI dans les émissions et tout, mais quand que il devait y avoir ce 5 millions d'euros pour le bâtiment.
Ça me donne encore le tour.
Et je me rappelle de Michael qui on parlait ensemble et Frank, ça t'étire quand même.
Ah oui.
Là, et qu'un matin, alors qu'il était seul, il y a eu une parole qui a été déposée dans son cœur par rapport à cette campagne-là. Et ça avait complètement changé les choses dans la perspective dans laquelle il a vu. Il a dit, j'ai une parole du Seigneur sur laquelle je m'appuie. Et là, on fonce. Parce qu'une parole qui est déposée, le Seigneur parle. Et je ne sais pas pour vous, mais peut-être qu'on peut très rapidement prier pour ceux qui suivent, que le Seigneur puisse déposer une parole dans leur cœur. Peut-être, Patrice, si tu veux prier pour les gens à la maison qui ont besoin de cette parole parce que les filets sont rangés, ils ont ri, ils sont rendus au bout du bout, mais que le Seigneur puisse parler.
Amen.
Seigneur mon Dieu, je vais te prier pour ceux qui sont avec nous aujourd'hui, Seigneur, pour que leur foi puisse être activée. Oui, parfois on est là et on lave nos filets, on est prêt à les ranger et c'est terminé. La nuit a été cauchemardesque et pour nous tout est au bout. On est comme Jaïrus qui est rendu au bout du bout et il a fait ce choix de venir se jeter aux pieds de Jésus. Parce que je crois que c'est toi encore Seigneur qui est capable de renouveler. C'est toi qui est capable de nous amener dans une pêche miraculeuse. C'est toi qui est capable, Seigneur mon Dieu, de réactiver les choses dans nos vies et de nous donner la force et la foi de croire que tu n'en as pas fini avec nous. Non, tu n'en as pas fini avec nous. Tu es celui qui veille sur nous et que tu veilles sur l'accomplissement des bons plans et des projets que tu as pour nous. Alors je prie pour tous ceux qui en ce moment sont en train de laver leurs filets, Seigneur mon Dieu. Ouais. Je prie que ta grâce puisse se manifester. Je prie que tu puisses vraiment agir puissamment. Pierre avait une barque, mais Jésus avait la mer.
Yes.
Et je prie, Seigneur mon Dieu, ce que Pierre avait besoin était dans la mer. Alors je prie, Seigneur mon Dieu, alors qu'il y a des gens, ils ont des choses, mais là, c'est terminé pour eux, ils veulent abandonner. Je prie pour que chacun puisse réaliser que tu possèdes toutes choses. C'est toi qui possèdes la mer, tu possèdes les cieux, tu possèdes la terre. Tu es celui qui est capable de réactiver ce qui semble aujourd'hui complètement éteint. Oui, Seigneur mon Dieu, accomplis le miracle dans la puissance de ton nom. Agis dans la vie de ceux qui nous écoutent maintenant. Amen.
Merci Seigneur, ouais. Amen.
Père, je veux prier aussi pour tous ceux qui sont célibataires, qui nous écoutent. Je crois que ce petit témoignage que je vous ai partagé vous a encouragé, mais vous vous dites, moi j'ai pas eu ça. Père, je te demande, que tu puisses déposer une parole ou simplement cette petite graine d'espoir que quelque part, sur cette terre, tu as prévu un mari, tu as prévu une épouse pour mon frère et pour ma sœur. Que tu déposes cet élan de foi, Seigneur, qui fait que le doute n'a plus sa place, que l'incrédulité, que la peur n'a plus sa place et qui leur donne le courage, de ressortir leur filet et de lancer leur filet, Seigneur. Merci, Père. Parce que tu n'en as pas fini.
Merci, Seigneur.
Merci, mon Dieu, parce que tu es en train de parler à quelqu'un en ce moment même. Tu libères une parole qui vient relever, qui vient redonner espoir dans les cœurs qui étaient découragés. Seigneur, tu relèves celui qui est découragé maintenant. Merci, Père.
Seigneur, merci. Et je prie, Père, que ton esprit puisse réveiller des paroles prophétiques qui ont été déposées dans le cœur de tellement de personnes. Tu le fais dans ma vie, dans le passé, alors que des moments de découragement, d'incompréhension par rapport à l'appel, par rapport au travail dans lequel ils sont, par rapport à ci ou ça, peur que les paroles qui ont été données sur leur vie, que ça puisse revenir à la vie, qu'ils se rappellent de ce que tu as dit les concernant, concernant eux, leur famille, la destinée que tu avais tracée pour eux, peur que les paroles prophétiques qui édifient, qui fait du bien, qui relève, qui exhorte, qu'elle puisse vraiment reprendre vie, Seigneur. Au nom de Jésus, des paroles qui avaient été oubliées. Certains vont aller voir dans des cahiers, vous aviez noté des choses dans le passé. Le Seigneur est en train de vous le rappeler, allez lire, méditer, et la parole prophétique va faire son œuvre. Oh Seigneur, on te remercie. Merci pour ton action. Merci, nous t'adorons et nous te remercions.
Merci Seigneur.
Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen.
Merci Seigneur.
En fait, dans cette semaine, les émissions qu'on a fait ensemble, on a parlé aussi des vases. Et je crois que c'est aussi une façon de débloquer la foi, c'est de poser une action un peu folle, qui a pas trop de sens, mais en faisant confiance à Dieu.
Ouais.
Un peu comme David qui se tient devant Goliath sans porter l'armure qu'on lui a proposée, parce que, en fait, elle est pas faite pour lui, c'était pas ce que Dieu voulait pour lui. Et je pense que après cette émission, certains d'entre vous, Dieu vous a parlé de manière spécifique et vous a demandé de poser une action, de faire quelque chose. Et ça vous paraît un peu bizarre, un peu fou, pas très sensé. Vous êtes un peu en train de vous poser des questions. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Mais comme on l'a dit dans l'émission par rapport à cette veuve, eh bien des fois, faut pas avoir peur du ridicule avec le Seigneur et faut oser se lancer et oser croire que Dieu nous a parlé et que s'il nous a parlé, oui, il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Alors cherchez-le de tout votre cœur et le Seigneur va opérer un changement, va débloquer quelque chose dans votre situation. Et bientôt, vous pourrez regarder en arrière et vous souvenir de cette histoire-là en vous disant « Ce jour-là, j'y croyais plus. Ce jour-là, j'avais laissé tomber, mais Dieu n'avait pas fini. Alors je m'accroche encore à toi, Seigneur. » Parce que vous allez aller de niveau en niveau, de peut-être crise en crise, mais chacune de ces crises vous amènera à une autre percée, à une autre victoire qui va développer votre foi. Eh bien, excellent, excellent sujet, vraiment. Moi, j'ai été très édifiée. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a bénie.
Ah oui. Tu as eu une bonne idée, Evelyne. C'est un bon thème. J'ai aimé ce thème.
Je pense que tu pourrais me faire une petite tape sur l'épaule quand même.
Bravo, Evelyne.
C'est le plus haut niveau d'encouragement de Frank, c'est quand il fait une tape sur l'épaule. Bravo, Evelyne. Là, c'est vraiment les
c'est le summum, là.
Bon, sur ce, Patrice d'avoir
merci,
été
Patrice,
avec nous.
Merci, Patrice. Vraiment.
C'est un plaisir.
C'est une très très belle semaine. Merci et merci à vous de nous suivre jour après jour, semaine après semaine. Et bien sûr, on se retrouve lundi pour de nouvelles émissions. On vous souhaite un très bon week-end. Passez un bon temps dans vos églises locales dimanche. Et à très vite. Bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.